développant des aptitudes intellectuelles décisives, comme la puissance de l'imagination. Les sensations personnelles renseignaient sur l'état de la proie, mais aussi sur le sien. En ces terres arides, ne pas y être attentif pouvait conduire à l'hyperthermie. Voilà des mois que John et Ancon n'avaient pas chassé, préservant les espèces lors des périodes de reproduction et des premiers allaitements. Partis à l'aube, les deux hommes arpentaient la brousse depuis des heures, prenant soin de ne pas couper la route des fauves. Les lions avaient à l'arrière des oreilles de grands cercles blancs qui indiquaient leur humeur. Fâchés, ils plaquaient leurs oreilles, et si les cercles blancs clignotaient, il valait mieux ne pas s'en approcher, un signal qui leur permettait d'éviter bien des combats. Enfin, Ancon décela la trace fraîche d'un gnou, un animal esselé visiblement. Ils suivirent la piste à travers le bush, une heure, puis deux. Les gnous étaient endurants. Seuls les lycaons pouvaient leur coller au train pendant des kilomètres jusqu'à ce que l'épuisement les terrasse et en fasse des proies résignées. Nés faibles, yeux cloués au sol, course lente, les premiers hommes et les sannes utilisaient la même technique que les lycaons, la chasse d'endurance. La perte progressive de leur fourrure avait fait des humains des singes sans poils. La peau nue permettant d'évacuer la chaleur plus efficacement, ils gardaient leur force et leur vivacité après des heures de poursuite, alors que l'animal traqué se voyait accablé par sa chaleur corporelle. Si les effets de l'évolution étaient toujours présents dans nos corps, ils devaient l'être aussi dans nos esprits. Ancon et John pistaient leur proie sans la voir, mais son image était nette, comme les empreintes sur le sol. Sa foulée se raccourcissait, le gnou déplaçait plus de sable et les distances entre les endroits où il se reposait devenaient plus courtes. « Il commence à se fatiguer », commenta le chasseur. Le soleil grimpa, troublant la plaine de mirages. John et Ancon croisèrent un serpentaire, rapace plus distingué que les vautours, avec sa crête ébouriffée et ses longues pattes broyeuses de mulot. Les deux hommes marchèrent encore, puis ils la virent enfin. La femelle gnou était seule, à environ 300 mètres, occupée à brouter, relevant la tête de temps à autre. Les herbes hautes avaient la couleur de la paille. Ils avancèrent face au vent. L'animal ébrouait sa crinière pour repousser les mouches carnassières, écumant de fatigue. Ancon dressa son arme sur son trépied, ajusta la lunette et le prit dans sa mire. L'air de la savane sembla se suspendre un instant, comme le souffle de John à ses côtés. Le San remercia l'animal qui nourrirait la communauté pour plusieurs semaines, et fixant le point rouge en plein milieu du poitrail, il pressa la détente. Un tir de sniper qui éparpilla les oiseaux. Foudroyé par la balle de gros calibre, le gnou s'affala de tout son poids. Le bleu du ciel se ternit au passage d'un rare nuage. Les deux hommes marchèrent en silence jusqu'à la dépouille, s'agenouillèrent et constatèrent la mort instantanée de la jeune femelle, encore chaude d'une vie qui la fuyait. Le dépeçage prenant un temps qu'ils n'avaient guère, selon les usages San, ils auraient dû confectionner un sac à dos avec la peau du gnou pour transporter sa viande, John envoya un message par Tokiwoki au Lodge afin qu'un pick-up vienne embarquer la dépouille. C'est en coupant le contact radio qu'il aperçut deux vautours un peu plus loin, qui s'étriaient autour d'une carcasse, les ailes battant l'air brûlant.
« Je vais voir. »
John craignait pour le bébé rhinocéros, né deux jours plus tôt à quelques kilomètres de là. Il marcha jusqu'au charognard, n'eut pas besoin de son fouet pour les éloigner, puisque son approche suffit à les faire fuir, et il découvrit le cadavre d'un lion à terre. Il ne restait pas grand-chose du fauve, éventré et vidé de ses entrailles, mais sa taille et la crinière foisonnante épargnée par les vautours indiquaient qu'il s'agissait d'un vieux mâle. Oreilles noires. John eut un pincement au cœur devant le roi nu qui gisait dans les herbes. Les crocs de l'ancien chef de clan avaient été grossièrement arrachés de la mâchoire, ses pattes amputées à la hache pour en récupérer les griffes. « Braco !» souffla Ancon dans son dos. Personne d'autre n'avait cette sauvagerie. Il n'y avait pas d'empreintes sur le sol, où elles avaient été effacées par le balai des charognards qui avait commencé à nettoyer la dépouille. John inspecta les restes du fauve, de la pointe du poignard fouilla l'amas de chair noire et d'eau, grouillant de verre, sans constater la présence de projectiles. Dans tous les cas, Oreille Noire était mort il y a peu, et eux n'avaient rien vu.